France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Jody DeVos, jeune soprano dont l'étoile brille de plus en plus fort au-delà de sa Belgique natale et de la France où elle vit, entre son premier disque consacré à Offenbach, son amour revendiqué de l'opéra comique, mais aussi sa passion de Mozart et Rossini. Jody DeVos évoquera un parcours déjà très riche de soprano coloratour. En fin d'émission, Serge Laïc nous dira tout du chef d'orchestre Norman Maine. Mais puisque nous avons encore quelques minutes, commençons par un petit voyage en Haïti.
Mon seul paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison.
Et vous avez reconnu la voix irrésistible de Joséphine Baker ici en 1934 avec le jazz du poste parisien. C'est comme ça qu'on appelait ces petits orchestres de foxtrot. Et c'est extrait d'un film d'ailleurs, un film de cette même année réalisé par Marc Allégret qui s'intitulait Zouzou avec Jean Gabin, Yvette Lebon et donc Joséphine Baker. Tout cela pour vous recommander à nouveau ce merveilleux coffret intitulé Les chansons du cinéma français. Trois CD qui sont parus chez Frémaux et Associés et qui ont été vraiment concoctés par Dany Lallemand avec sa collection extraordinaire où il est allé rechercher pour nous quelques trésors connus et moins connus. Et nous allons maintenant nous rendre en galopant vers mon invité Jody DeVos et ce galop, nous allons l'effectuer en compagnie de monsieur Isaac Strauss, le chef des bals de la cour du Second Empire, dans ce morceau intitulé « Galop de Londres ».
Thank you.
Alors ça, c'est vraiment une rareté, hein, ce disque de Marcel Cariven avec l'orchestre L'Amoureux et la musique d'Isaac Strauss, qui était, figurez-vous, l'arrière-grand-père du grand Claude Lévi-Strauss. Il était donc chef des bals de la cour de Napoléon III et c'était vraiment le maître du galop.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis c'est une transition toute trouvée pour mon invité, puisqu'elle a consacré son premier disque à Jacques Offenbach, qui était sûrement un ami d'Isaac Strauss. Mais elle a fait bien d'autres choses. Elle brille aujourd'hui sur toutes les scènes d'Europe, dans un répertoire de soprano colorature, où l'opéra, l'opéra comique et même l'opérette tiennent une place non négligeable. Je suis très heureux d'accueillir ce matin Jody De Vos. Bonjour Jody De Vos.
Bonjour.
Vous êtes si nerveuse que ça réellement ?
Je suis pas loin d'être comme ça de temps en temps, oui. Mais pas ce matin.
En tout cas, c'est un air d'Offenbach, hein, tiré de votre disque Offenbach Colorature, merveilleux disque de l'an dernier avec l'orchestre de la radio bavaroise, Laurent Campellone, et tout un choix d'œuvres que vous avez fait en partie, j'imagine, avec d'autres, avec le chef, avec...
Alors, c'était principalement avec Alexandre Radvicki et
le
Palazzetto Bruzane. Voilà, Alexandre qui devient un compagnon de route
régulier.
Et j'en suis très contente. Et c'est lui qui est venu, en fait, avec l'idée de ce projet
Offenbach
Colorateur.
Et ça vous a surpris de faire un disque Offenbach, l'idée ?
Non, en fait, pas du tout. Ça m'a paru assez évident. J'avais chanté 2 ans auparavant Eurydice dans Orphée aux Enfers, un rôle que j'ai adoré interpréter. Offenbach fait partie quand même un peu de mon paysage musical, avec la poupée notamment, qui me suit depuis quelques années maintenant.
Et oui, c'est tout à fait pour vous aussi, évidemment.
Tout à fait. Mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Offenbach.
Voilà.
Et c'est ça qui est fabuleux, je trouve, parce que ce compositeur qui est aussi présent, que tout le monde connaît, a encore de nombreux mystères à nous faire découvrir.
Voilà, et ce disque est effectivement fait d'œuvres connues et surtout moins connues.
Hein, c'est ce qu'on a voulu.
Et puis des airs aussi qui magnifient, enfin je ne sais pas si c'est vous qui les magnifiez ou eux qui vous magnifient, mais votre voix de soprano colorateur comme l'indique le disque.
Oui, on voulait vraiment avoir un panel très très large de toutes ces couleurs chez Offenbach et mettre principalement la voix de soprano colorateur en avant.
Voilà, parce que souvent on connaît plutôt les grands rôles de mezzo chez Offenbach.
C'est vrai.
Ceux qui ont été créés par Hortense Schneider en particulier.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'il a eu des muses
diverses et nombreuses.
Exactement. Mais comme Adèle Isaac, par exemple, qui lui a inspiré les quatre femmes dans Hoffmann. Et, C'était très à la mode, les cocottes et, voilà. Et les roulades.
En tout cas, non, quand je dis ça vous a pas surpris de faire Offenbach, c'est parce que finalement, en 2018, l'an dernier, vous étiez déjà, depuis 2-3 ans, lancé vraiment dans la grande carrière qui est arrivée assez tôt, on peut dire, hein, dans votre vie. Et donc, on aurait pu imaginer que vous vouliez vous marquer tout de suite du côté plus de Mozart ou d'autres compositeurs que vous adorez. Mais Offenbach, ça vous convenait bien et on s'en réjouit.
Oui, j'ai eu la chance d'enregistrer avant Offenbach du Mozart,
bien
quand
sûr,
même, avec Leonardo Garcia Alarcón. On a fait un disque, c'était pas un récital solo, mais c'est vrai que pour un premier récital... Je trouve ça important. On a souvent ces disques qui sont des cartes de visite, voilà. Avec des grands airs connus.
C'est pas ce
Moi,
que vous
vouliez. C'est pas trop ce que je voulais, non. Je suis vraiment une grande partisane de la redécouverte, vu que je travaille avec le Palazzetto depuis quelques années maintenant, depuis presque 4 ans. Et je suis d'autant plus ravie d'avoir pu faire ce projet qui met ma voix tout aussi en valeur que Bien dans sûr. Un disque carte de visite avec des grands airs connus.
Et ce succès qui est arrivé rapidement, fortement, ça,
oui.
ça vous a
pris par surprise. Alors ça m'a surpris. Ça m'a beaucoup surpris. Le disque a été reçu d'une façon dont je ne m'attendais absolument pas. Et la carrière aussi, c'est-à-dire qu'après 5 ans, donc, la chanteuse que je suis est née il y a 5 ans, coucou Reine Elisabeth, et je suis à Bastille avec la crème de la crème du chant français. Donc oui, ça me surprend beaucoup.
Mais agréablement.
Agréablement.
Alors, on va revenir sur ce parcours Jody De Vos, peut-être en privilégiant un peu les choses légères, puisque c'est le principe de cette émission. Et notamment certaines musiques que vous adorez ou vous écoutiez, petite fille, qui sont pas forcément du tout des musiques de soprano coloratour. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.
You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free? I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want.
D'abord, c'est toujours un plaisir quand on me fournit l'occasion de passer du Marvin Gaye. Merci, Jody De Vos. Mais en plus, j'ai vu, alors que toute jeune fille, vous n'écoutiez pas tellement de musique classique et beaucoup, beaucoup de musique de pop anglo-américaine.
Oui, c'était oui, plutôt oui, ça, votre... la musique classique, je l'écoutais seulement en cours de ballet quand j'allais prendre mes cours de danse classique. Mais non, j'écoutais beaucoup de pop, beaucoup de pop américaine, c'est vrai.
C'était ça que vous adoriez. Il faut dire que vous êtes née, vous avez grandi à Neuchâteau, donc en Wallonie. Hein.
Dans les Ardennes, oui.
Dans les Ardennes, dans une famille qui n'était pas du tout de musiciens. Vos parents, je crois, faisaient du foie gras, c'est
mes
ça
Mes parents étaient producteurs
font toujours gras, peut-être d'ailleurs.
Mon papa le fait toujours, oui. Donc j'ai vécu à la ferme, dans les canards. Et,
ah bon, oui.
C'était une ferme de luxe parce que le foie gras est quand même, ouais, j'ai quand même, ouais, beaucoup de chance.
Et puis alors là, donc vous écoutiez Queen, Led Zepp, ouais, en plus des choses assez,
ah oui,
assez toniques. Hein.
C'était le bon vieux rock classique. De l'époque des années 60-70.
Voilà, ce qui est donc bien avant votre naissance. Mais vous avez aimé ça tout de suite. Et alors la musique classique, elle est arrivée comment? Et le chant en particulier?
Le chant, j'arrive pas trop à savoir comment. Je pense que j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé chanter. Donc mes parents, m'entendant chanter, m'ont poussé à le faire encore plus. Et donc très très jeune, j'ai voulu devenir chanteuse. Mais c'était plutôt malheureusement la Star Academy qui me faisait rêver plutôt que, ouais, le concours Reine Elisabeth. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'opéra, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai quand même voulu apprendre à chanter, donc j'ai voulu prendre des cours de chant. Mais dans les académies, donc les conservatoires municipaux, je dirais, ouais, aussi en France, dans les académies, ce sont des cours de chant classique. Et donc j'ai eu mon premier cours de chant classique en voulant apprendre à bien chanter.
Et c'était une révélation.
Ça a été une révélation, ouais. J'ai commencé à chanter un petit air de Pergolèse et ouais.
Alors là, votre formation, vous l'avez poursuivie plus sérieusement à Namur, je crois.
Oui, hein, oui, tout à fait, à l'IMEP, l'Institut de musique et de pédagogie à Namur, pendant 5 ans, où j'ai obtenu un master avec...
Donc là, ça veut dire que vous pensiez déjà devenir chanteuse?
Ah oui, mais une fois que j'ai... À 16 ans, quand j'ai découvert l'opéra, je ne me suis pas posé de questions, en fait. J'allais aller à Namur pour faire des études de musique et c'était parti, même si je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais.
Et alors, il y a un autre endroit qui a compté beaucoup, je crois, dans votre formation. Après Namur, ça a été Londres.
Oui, tout à fait.
Vous avez aimé la ville aussi, la vie anglaise.
J'ai adoré la ville de Londres, la courtoisie très anglaise, une certaine légèreté tout en étant très sérieux. Et puis un enseignement extrêmement complet et puis tellement rempli d'histoire. J'ai vraiment adoré cette ville.
Alors qu'est-ce que, au fond, vous avez appris dans toute cette formation? Bon, évidemment, à bien chanter, mais à trouver votre voix, à la placer, alors, à la définir.
Les 5 ans à Namur, ça a été vraiment trouver ma voix, parce que j'ai quand même beaucoup gambergé pour la trouver. On me faisait chanter des choses très très lourdes. J'ai chanté Thaïs, j'ai chanté Liu, Louise même. Donc c'était pas du tout la légère coloratoire que je suis actuellement. Et puis j'ai finalement trouvé le bon chemin, là où je ne me fatiguais pas, là où ma voix se mettait...
C'était tout en haut.
Voilà, c'était dans la légèreté et très haut perché. Là, j'étais enfin dans mes baskets. Et Londres, ça a été plutôt la découverte de la vraie vie, parce qu'on était quand même des étudiants d'un niveau tous très haut. Donc, on découvre un peu ce qu'est la compétitivité.
Ah oui, aussi.
Voilà. Et puis, beaucoup de concours intrascolaires et puis la découverte du répertoire. Vraiment, j'avais des classes d'oratorio, des classes de leader, des classes de mélodies françaises, d'English songs. Et donc là, on passe des heures à la bibliothèque et on découvre beaucoup de répertoires. Et Londres, j'ai adoré ça.
Oui, je sentais que vous aviez toujours une petite nostalgie londonienne.
Oui.
Mais néanmoins, eh ben c'est quand même en Belgique que les choses se sont vraiment déclenchées avec ce concours Reine Elisabeth.
Oui, oui.
Finalement, vous êtes revenu au pays et c'est là que vous avez vraiment connu une forme de première... Petite consécration, quand même.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est là où je suis née. Je suis née pour moi en 2014 au Palais des Beaux-Arts pour le concours Reine Elisabeth. La chanteuse que je suis est née à ce moment-là, puisque finalement, avant, j'étais étudiante jusqu'à cet instant-là. Et puis j'ai été révélée. Le concours Reine Elisabeth a une forte portée médiatique aussi en Belgique et aussi un peu en France, je pense.
À tel point que le disque est sorti, d'ailleurs, de votre participation au concours.
Oui, la BNP Fortis Bank sort de temps en temps les disques de quelques candidats, et souvent les candidats belges, il faut bien l'avouer. Et donc le disque est sorti.
Et voilà, et on va écouter une petite mélodie, je me fais plaisir là encore, j'adore Richard Strauss, ça vous convient?
Ah, avec grand plaisir.
Voilà, ça s'appelle Kling.
Ah oui. Yeah.
avec au piano Daniel Tonnard.
Tout à fait.
Voilà, donc c'était vraiment le vrai enregistrement du concours Reine Elisabeth.
Demi-finale du concours Reine Elisabeth, stressée comme je ne l'ai jamais été de ma vie.
Voilà, et maintenant vous n'entendez que les défauts. Nous, on ne les entend pas, mais vous...
Oui, j'entends, c'est normal, je pense, chaque chanteur qui se réécoute entend ce qu'il a amélioré.
Bah oui,
et ça fait quand même déjà quelques années. Donc, voilà.
Jeudi de Vos, ça m'a fait rire parce que je voyais tous les articles sur vous. Et alors, bon, justement, à la suite de ce concours... On a l'impression que, à juste titre, au fond, les Belges, la Belgique, étaient fiers d'avoir cette jeune chanteuse qui émergeait. Et alors, il y a des articles où on dit « Jody De Vos s'envole pour Paris comme si vous partiez à l'autre bout du monde
». Mais c'est vrai que c'est une fierté. On est un petit pays, mais on a de très, très beaux artistes. On a Anne-Catherine Gillet qui fait une carrière absolument incroyable. Sophie Kartoiser, Lionel Lotz. Je pourrais vous donner une liste très, très longue. Mais voilà, je pense que ce concours... Et tellement dans tous les cœurs des Belges qui aiment la musique classique, voilà, ils se sont pris de sympathie pour moi. Et...
Mais le départ à Paris, donc, il est un peu un moment obligé, presque dans la carrière de beaucoup d'artistes belges, ça a été vraiment un exil. Vous êtes parti à l'autre bout du monde.
Oui, peut-être. Pour eux, j'étais déjà trop loin, mais j'y reviens quand même très souvent en Belgique.
Ouais. Vous avez aimé Paris quand vous y êtes installé?
Oui, c'est une ville dure, je trouve, Paris.
C'est dur,
Paris.
Ah oui.
Moi qui viens de ma campagne, mais on se retourne à chaque coin de rue et c'est tellement magnifique que voilà, on aime quand même y être.
Voilà, et j'ai eu moi en tout cas la joie de vous connaître peu de temps après parce que vous faisiez partie alors de la toute jeune troupe qui a été constituée par Jérôme Deschamps et Olivier Monteilli à l'Opéra Comique. Hein, vous êtes entré donc dans l'Académie de l'Opéra Comique.
Ouais.
C'était quoi l'idée de cette Académie?
Alors l'idée c'était qu'on participe à deux productions professionnelles durant la saison. Voilà. On était coachés, on avait des cours de chant et on avait des petits rôles et des covers pendant ces deux productions-là avec de nombreux récitals aussi sur les thèmes vraiment spécifiques à l'Opéra Comique. Donc, que ce soit la romance française ou le vrai répertoire de l'opéra comique dans le thème des travestis ou autre. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup de récitals. On travaillait énormément, mais avec des gens formidables. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir ma très chère collègue Sabine Devielle qui est tombée malade.
Voilà. Ça commence toujours comme ça, les carrières de chanteurs ou de chanteuses.
Oui.
On a la chance qu'un autre tombe malade, même si on l'aime beaucoup.
Et donc, elle m'a fait ce cadeau confiance de me laisser chanter Adèle dans La Chauve-Souris. Oui, tout à fait.
Voilà la production d'Ivan Alexandre et Marc Minkowski.
Tout à fait.
Un très beau spectacle. Et voilà, et là, tout d'un coup, vous avez encore franchi...
Elle m'a permis de monter quelques marches, oui.
En tout cas, l'Opéra Comique, ça a été aussi, j'imagine, parce que je ne pense pas qu'on en parlait beaucoup à Namur peut-être, mais pas à Londres, la rencontre avec un répertoire que vous ne connaissiez pas forcément.
Alors, c'était une vraie découverte, vraiment, et c'est un véritable coup de cœur pour moi, ce répertoire.
Oui.
Mais je connaissais très, très peu d'airs de l'Opéra Comique. Ouais. Je ne savais même pas, par exemple, que Manon ou Carmen étaient des opéras comiques à la base.
Ouais.
Que ça avait été créé dans cette salle, je ne connaissais rien de l'opéra comique.
Vous ne saviez pas que l'opéra comique est une mine d'air pour soprano colorato.
Exactement. Mais surtout une institution aussi importante. Parce que voilà, ma culture de l'opéra se fait quand même toujours petit à petit, vu que j'ai commencé assez tard à me lancer dans ce milieu. Mais l'opéra comique, ça a été un coup de foudre. Vraiment.
Le passage du parler au chanter, du chanter au parler, c'était...
Ça s'est fait assez naturellement en ce qui me concerne. Mais je dois faire très attention parce que j'aime beaucoup jouer la comédie, donc je me laisse très vite emporter.
Ouais, vous avez d'ailleurs pris aussi des leçons de théâtre aussi, parce que vous vouliez vraiment être aussi performante sur scène.
Au lycée, j'avais des cours de théâtre, donc j'ai toujours aimé ça, ça fait vraiment partie de mes passions. Et donc mon premier opéra comique, qui n'était pas un opéra, c'était une opérette, c'était Orphée aux Enfers, mais donc avec cette alternance de chant et de texte parlé, ça m'a semblé tellement naturel. Voilà.
Alors on va écouter une des œuvres qui a eu le plus de succès à l'Opéra Comique, bien qu'elle soit aujourd'hui complètement oubliée, mais vous l'avez enregistrée à Toulon. C'est le chalet d'Adolphe Adam, que vous avez, je crois, donné en version concert à l'Opéra de Toulon.
Tout à fait, c'était le concert d'ouverture pour la saison 2016 à l'Opéra de Toulon, oui.
Et donc on vous avait proposé ce rôle, vous ne connaissiez pas l'œuvre évidemment,
et ça a été
un plaisir musical.
Oui, en fait, ça a été une vraie surprise parce qu'au départ, quand moi je travaille seule avec mon piano, cette partition, je me dis, la musique est un peu légère, c'est un peu...
Ça n'a pas l'air de grand chose.
C'est simplet. Et en fait, c'est simple, mais c'est pas du tout simpliste.
Oui.
Ouais.
C'est joliment fait.
C'est très joliment fait. Il y avait de très, très beaux passages et on a pris beaucoup de plaisir.
Et je propose alors qu'on vous écoute ici en duo avec Sébastien Droit.
Thank you.
Quand ange, aux surprises extrêmes, vous m'aviez dit de partir. Maintenant, c'est vous-même, vous qui déniez me retenir, vous qui déniez me retenir,
Un ami, on peut bien tous recevoir les derniers adieux.
Non, je sens que votre présence va me rendre encore plus malheureux. Et puisque votre ordre cruel m'a banni, je m'en vais. Adieu, adieu.
Adolphe Adam, Le Chalet, dirigé par Guillaume Tournier avec l'orchestre de l'Opéra de Toulon, Sébastien Droit et mon invité Jody DeVos. Vous disiez qu'il y a un plaisir à chanter cette musique également. Oui. Hein.
Très difficile à chanter parce que Adam ne rend pas la chose facile pour les vocalises, mais c'est très très agréable à chanter.
Voilà, et je précise que on peut trouver donc le disque de l'intégrale de ce chalet que vous avez enregistré en 2016 à Toulon. Et puis alors, assez rapidement aussi, dans cette même période, alors vous êtes monté en scène pour un des grands rôles emblématiques de l'opéra comique et de la voix de Colorato, ça a été L'Acmé à Tours.
Ça a été...
Vous y attendiez, c'est comment ça s'est passé?
Alors, non, c'est, je ne me rappelle plus tellement quand on me l'a proposé, mais voilà, c'est vrai que Sabine Devielle a remis un peu L'Acmé au goût du jour en France. Benjamin Pionnier m'a offert ce rôle et je l'attendais avec grande impatience parce que L'Acmé est pour moi un des plus beaux rôles que j'ai eu à chanter jusqu'à maintenant.
C'est pas seulement de la vocalise dans le très aigu.
C'est très peu de vocalise dans le très aigu,
finalement,
en fait.
À part l'air des clochettes.
À part l'air des clochettes, on est dans quelque chose de beaucoup plus riche, de très intense.
Oui. Et mais néanmoins, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu justement de cette spécificité de cette voix de coloratura avec ce côté performance. Ça fait aussi partie peut-être du plaisir aussi d'abord d'aller chercher les notes très élevées, cette virtuosité au fond pur. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, que vous assumez ou qui vous paraît un petit peu futile?
Alors je peux pas renier ma voix quand même si j'ai toujours rêvé d'être une Madame Butterfly, mais nous savons que ça n'arrivera pas. Il y a un plaisir à chanter ce répertoire qui est quand même déjà le challenge de pouvoir chanter ces airs. Et puis,
jusqu'au contre quoi?
Moi, je suis jusqu'au contre fa. Fa dièse dans mes
très, très grands. C'est moins que Mado Robin.
C'est beaucoup, beaucoup moins que Mado Robin. Qui avait quand même le contre si, peut-être le contre-contru. Je ne sais pas, mais voilà. Même le contre-sol dans cet air de concert de Mozart, moi, je le laisse à d'autres parce qu'il m'effraie beaucoup trop. Ouais. Mais c'est surtout la virtuosité, les vocalises, la rapidité, la légèreté de tout ça, de jouer avec sa voix comme on peint, comme on joue d'un instrument, comme on... Voilà, c'est un instrument extrêmement agréable avec lequel s'amuser.
Et en même temps, ça vous agace parfois parce que vous trouvez que souvent les personnages joués par des coloratures dans les opéras sont des personnages futiles, un peu godiches ou
encore.
Vous avez utilisé des mots sévères.
Ah bon? Je vais être jeune, non? Mais c'est vrai que voilà, les premières chanteuses à roulade dans les opéras comiques, c'est des jeunes paysannes un peu légères qui n'ont pas encore vécu énormément de choses dans leur vie. Oui. On est loin de la Reine de la Nuit qui a un caractère extrêmement bien trempé.
Ouais, c'est le contre-exemple.
Oui. L'Acmé, c'est différent. Je pense que c'est une jeune femme qui. C'est pour ça qu'on a ces deux parts en elle. C'est ce côté très léger dans l'air des clochettes. Et puis ces airs qui peuvent être très lyriques. Et le Tu m'as donné le plus doux rêve de la fin, qui est sur un film, mais qui est très, très profond. L'Acmé est une jeune fille, mais elle a une grande spiritualité, ce qui fait qu'elle a vécu plus de choses. Mais c'est vrai que dans l'opéra comique, souvent, on a des jeunes premières qui ont besoin d'encore un peu d'expérience, je pense.
Voilà, c'est ça. En tout cas, bon, c'est quand même un répertoire très riche, vous l'avez dit, et puis qui peut aller effectivement aussi jusqu'à Manon, jusqu'à Mozart, jusqu'à plein de rôles qui sont des grands rôles.
Oui, tout à fait.
Et que vous abordez maintenant avec le bonheur qu'on sait. Mais je voudrais m'arrêter encore un instant, Jody De Vos, à cette période de ces rencontres autour de l'opéra comique, avec la Fondation Brusane aussi, alors qui vous a à ce moment-là repéré et entraîné dans quantité de projets.
Oui, en fait, j'ai auditionné d'abord pour Benoît Dradwicki, qui lui s'occupe du CMBV.
Centre de musique baroque de Versailles.
Voilà. Et bon, on sait que les deux sont inséparables, donc Alexandre, son frère, m'a entendu, à mon avis, peu de temps après. J'ai auditionné pour le Phèdre de Lemoine, qui avait été joué au Bouffe du Nord il y a maintenant peut-être 2 ans, je pense, et qui a été repris. J'ai pas été retenue pour ce Phèdre, mais ça a été la rencontre avec Alexandre. Il a aimé peut-être ma diction, la couleur de mon timbre, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une très belle rencontre à ce moment-là. Et Alexandre m'a embarqué dans plusieurs projets.
Plusieurs redécouvertes d'opéra, alors complètement oubliées. Hein, peut me rappeler. Il y a eu le timbre d'argent de
Saint-Saëns.
C'était un bon souvenir, ça?
Oh, c'était un super souvenir. Ouais. Une très, très belle équipe, une mise en scène qui nous avait beaucoup amusés, voilà, qui avait été peut-être controversée à l'époque, mais...
Et puis la nonne sanglante.
Cette fameuse nonne sanglante qui reste un souvenir, un des plus beaux souvenirs que j'ai à l'opéra comique.
Ouais. Un opéra de Gounod. Hein.
Tout à fait.
Mais alors là, c'est pas du tout de l'opéra comique, hein. C'est de l'opéra sanglant.
Alors on est dans une histoire très très sombre de revenants et d'amour impossible, mais avec une musique de Gounod extrêmement recherchée, très riche. Et moi j'avais ce rôle de petit page, j'aime beaucoup jouer les garçons. En fait, je me rends compte, après avoir joué encore Jamie cet été à Orange dans Guillaume Tell, ça me plaît beaucoup d'être en culotte courte, ouais.
Voilà, ça a été deux redécouvertes marquantes à l'opéra comique. Et puis, un spectacle, on va en écouter un petit extrait, dont on a un peu moins parlé, qui s'appelait « Il était une fois
».
La féerie dans le monde de l'opéra comique français, c'était encore une production de la Fondation Brusane.
C'était tout à fait un disque du Palazzetto. Et l'idée était donc d'avoir des extraits d'opéra qui traitaient du conte de fées. Donc on avait Cendrillon, Le Petit Poucet.
Deux Cendrillons différents d'ailleurs.
Deux Cendrillons différents.
Pauline Viardot et l'autre de Massenet.
Celui de Massenet. Et puis La Belle au bois dormant de Charles Silver qui était une superbe découverte. Voilà, c'était un projet avec le Quatuor Giardini. Et Caroline Meng, c'était mon premier disque avec le Palazzetto.
Voilà, et alors moi j'ai choisi un petit morceau d'un compositeur d'opérette complètement oublié, mais que j'adore, qui s'appelle Gaston Serpette, et qui a écrit Les Demoiselles du Téléphone.
Tout à fait.
Voilà, et là vous êtes justement en duo avec Caroline Meng.
Je l'adorais
Gaston Serpette, on l'avait vraiment oublié lui aussi, mais grâce à vous, Jody DeVos, il est à nouveau dans la discographie avec ce disque « Il était une fois » et le quartuor Gardini, très joli disque que vous avez enregistré donc pour le coup en 2015. Depuis, tout est allé très vite, je le disais au début. Mais tiens, ça m'a frappé en écoutant cet air, donc là, vous roulez beaucoup les airs. Hein.
Ah oui, c'est un peu la mission que s'est donnée le Palazzetto Bruzane de garder le air roulé dans la tradition du chant français.
Donc ça, c'est un parti pris très volontaire d'Alexandre Radwicki.
Ouais, tout à fait.
Mais il vous arrive dans d'autres productions de ne pas rouler les airs parce qu'on vous demande de ne pas les rouler.
Tout à fait. C'est vraiment, après, c'est un choix du chef. Ou alors
c'est
on
pas
nous
un
laisse...
choix du chanteur, vous pensez. C'est un compromis.
En fait, c'est un compromis et je pense que ce qui est surtout important, c'est que tous les chanteurs sur la production se mettent d'accord sur un choix.
Ah oui,
qu'on ait un chanteur qui roule et l'autre qui ne roule pas. Je trouve ça toujours un peu gênant. Maintenant, il y a des airs dans des lignes de chant qui vont vers le haut, qui montent. C'est très difficile de grasseiller un air en fin de mot, par exemple. Donc, on fait ce qu'on appelle un flip de la langue pour le rouler. Mais c'est toute une science si on écoute vraiment Alexandre et Benoît Radwicki qui font même des conférences à propos des airs. C'est toute une science dans le chant français, oui.
Vous écoutez les grands deux artistes du passé,
Johnny
DeVos. Je sais que vous adorez Crespin, par exemple.
Mais... J'adore Crespin. Hier encore, j'ai écouté Lily Pons, j'ai écouté Nino Valin. Maddy Mesplé reste quand même une référence dans beaucoup d'enregistrements. Comme je m'intéresse beaucoup au répertoire oublié, c'est du répertoire qui a été enregistré il y a très longtemps, avec des vieilles vidéos d'archives peut-être parfois, ou des vieux enregistrements de Liena. Donc oui, j'écoute encore ces chanteuses qui avaient
C'est une façon aussi d'apprendre, enfin, d'aller chercher des conseils, au moins par l'oreille.
De savoir quel était vraiment cet art du chant français à l'époque, oui.
Oui, et vous travaillez, alors comment ça se passe pour une artiste encore très jeune, de votre âge, mais déjà très lancée, préparant plein de rôles, le travail quotidien du chant, la vie quotidienne
C'est beaucoup de travail à la maison, c'est s'enregistrer.
Tous les jours, le matin, vous faites des...
Le matin, non, je ne suis pas trop du matin, je suis plutôt un oiseau de nuit. Mes voisins doivent... J'adore commencer à travailler vers 22h, ce qui est extrêmement gênant. Donc j'essaie quand même de modifier mes horaires pour être dans l'après-midi plutôt, mais si je fais pas de technique tous les jours, oui, je fais mon répertoire, puis j'ai beaucoup de travail, j'adore faire des recherches aussi, donc ça fait partie de ce que je considère mon travail de chanteuse, des recherches de répertoire, m'intéresser à... Comme j'ai toujours la sensation d'avoir une culture opératique qui est venue très tard, j'ai l'impression que j'ai pas assez de matière.
Mais c'est aussi le travail avec un pianiste, avec un professeur même.
Alors oui, ça c'est un professeur, je dirais une fois par mois, je ne le vois pas toutes les semaines. Et le pianiste quand on peut, mais c'est vrai que là j'étais en production sur les Indes Galantes, ça a été très très intense. C'est parfois difficile de concilier les deux, de garder ces coachings avec cette oreille externe, ces avis de nos professeurs en qui on a confiance, et de rester quand même extrêmement présent sur l'œuvre qu'on est en train de préparer. Donc voilà, c'est un peu d'organisation, mais c'est du travail quotidien.
Alors vous disiez que vous connaissiez, à votre avis, trop mal le répertoire, mais vous l'explorez dans la pratique, et pour oui. notre plus grand plaisir. Alors vous avez donné cet été au Corégie d'Orange une œuvre que j'adore, mais qu'on montre trop rarement, qui est le Guillaume Tell en français. Donc de Rossini. C'était Jean-Louis Grinda qui vous l'a proposé, le
c'est Jean-Louis Grinda qui est maintenant en plus le directeur des Corégies d'Orange, qui m'a proposé le rôle de Jamie. Et c'est vrai que les Corégies d'Orange me font rêver depuis une bonne dizaine d'années. Depuis la première fois que je les ai vus à la télévision, c'était Patricia Tschoffi dans Traviata.
Vous aimez bien les grands lieux, parce qu'on peut aussi préférer l'intimité de la salle Favart que ces immenses espaces.
J'ai pas tellement de préférence. C'était une expérience extrêmement riche de chanter à Orange. On apprend beaucoup sur soi, sur la façon dont on chante aussi, parce qu'on doit apprendre à justement canaliser énormément le son pour ne pas pousser, pour que le son soit très concentré et une très bonne projection dans la salle, mais on a toujours tendance à vouloir pousser un peu la voix.
On ne peut pas jouer pareil non plus.
Non, on ne peut pas jouer pareil.
Quand il y a une telle distance avec le public.
Mais les Corégies, c'est quand même un moment absolument fabuleux quand on rentre sur scène. En plus, j'étais très très bien accompagnée avec Nicolas Laimo, Annick Massis, que j'adore absolument. Et qu'on voit, ces 7000, 9000 personnes sur les gradins. C'était assez magique. On avait une représentation, malheureusement, une représentation unique, et c'était vraiment un moment magique.
Et vous m'avez fait plaisir, parce que vous m'aviez dit que vous adoriez le final.
Ah bah c'est un des plus beaux finales que j'ai jamais écrit.
Tellement génial que j'ai réécouté sur votre conseil. Et là, avec joie, je fais entendre aux auditeurs donc ce qui est votre choix, hein, Jody DeVos. C'est la version de Lamberto Gardelli avec le Royal Philharmonia Orchestra.
Manque-t-elle au bonheur de l'élever si entière?
une houle d'applaudissements s'élève du théâtre antique. Et vous, sur la scène, Jeudy DeVos, avec vos partenaires. Ouais. J'imagine que c'est un grand moment,
ah, c'est
final.
Un grand, grand moment d'émotion, oui.
Ici, avec, dans le rôle que vous chantiez, là, c'était Maddy Mesplé, justement, avec Gabriel Baquier, Nicolas Guéda, Montserrat Caballé. Et donc, cette version dirigée par Lamberto Gardelli. Et donc, Rossini, bah, justement, nous conduit. Alors, on va, malgré mes goûts que vous connaissez, on va sortir un petit peu de l'opérette et de l'opéra comique pour bien évidemment dire que vous avez bien d'autres cordes à votre arc. D'abord, Rossini, il y a eu d'abord le Barbier. Donc,
le Barbier de Séville à l'Opéra Royal de Wallonie. Ouais. Un de mes premiers grands rôles, finalement. Un de mes premiers grands engagements. Et puis, le Contori qui est revenu. Donc, on reste quand même dans la...
Adèle dans le Contori.
Adèle dans le Contori, d'abord à l'Opéra Comique dans le petit rôle d'Alice, oui. et puis l'année suivante à l'Opéra de Wallonie encore dans le rôle d'Adèle. Et voilà, Rossini, c'est un peu mon Offenbach italien.
Voilà, c'est ça, c'est votre Offenbach italien, c'est très joliment dit d'ailleurs, Rossini adorait Offenbach.
Voilà, mais c'est très drôle parce que ma saison dernière c'était Offenbach, Mozart et Rossini, et on disait qu'Offenbach était le petit Mozart des Champs-Élysées. Oui. Ils sont tous tellement...
Ils se tiennent tellement... Voilà, c'est la musique du bonheur aussi, par certains côtés.
Ces trois-là, c'est... Voilà, ouais.
Verdi à l'horizon
dans quelques années, mais... Ça sera Gilda dans quelques années, en 2022, mais
Ah, c'est déjà prévu. Hein,
c'est déjà prévu.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu votre calendrier. Oh là là.
Non, mais voilà, je pense que Gilda et le rôle de Verdi que je peux aborder maintenant assez sereinement, ma voix me semble aller dans cette direction, et ça me plaît beaucoup aussi, mais j'ai quand même une affinité extrêmement particulière pour le répertoire français.
Voilà, et puis un autre qu'on aurait pu ajouter à Rossini, Offenbach et Mozart, parce que c'est un peu la même famille, c'est Richard Strauss, mais ça c'est pour bientôt, Ariane Anaxos.
Tout à fait, ça sera à Montpellier au mois d'avril, et ma première Zerbinette, voilà, qui est un rôle que j'attends avec énormément d'impatience, dans la mise en scène de Michel Faux.
Voilà, qu'il avait déjà monté il y a quelques mois. Et
à Toulouse, tout à fait, et voilà, ça c'est aussi... Ça fait partie un peu des sommets de la soprano coloratour qu'on attend avec impatience de gravir.
Voilà. Et puis alors donc Mozart peut-être avant tout, que vous avez beaucoup chanté, en particulier Suzanne dans les noces de Figaro.
Oui.
Et puis aussi cette Reine de la Nuit qui est pas gentille quand même.
Cette Reine de la Nuit, on n'est pas hyper copines. Voilà, j'ai une tendre affection pour Suzanne. La reine, elle, peut-être que je me sens encore un peu trop comme sa fille que comme elle-même pour le moment. Donc voilà, je l'aborde encore toujours avec beaucoup de crainte.
Ah oui.
Ouais, c'est un rôle qui me fait extrêmement peur. Et je le fais, je l'ai fait à l'Opéra Bastille.
Je devais être folle
pour le faire, mais ouais. mais c'est vrai que voilà, ça c'est l'Everest de la coloratour. Et c'est fabuleux. La flûte enchantée est une œuvre fabuleuse. Mais je chanterais Suzanne chaque saison si je le pouvais.
Voilà, et vous l'avez chanté pour la première fois, d'ailleurs, là encore chez vous, si j'ose dire,
ouais,
à l'Opéra Royal de Wallonie. On va alors évoquer aussi et écouter ce disque, justement, que vous avez consacré à Mozart, qui est alors, le concert de Vienne du 23 mars 1783.
Ouais, c'était l'idée de Jérôme Lejeune et Leonardo Garcia Larcón de recréer en quelque sorte ce concert. Donc on a fait des concerts live de ce disque. Après le disque qui est sorti, il y a quelques petits aménagements, il y a des ouvertures qui se sont rajoutées parce que c'est du matériel qui a été enregistré. On a enregistré d'abord un premier disque où j'étais malade, qui n'a pas pu malheureusement voir le jour. Et donc voilà, ce disque, cette Académie mozartienne avec les airs écrits pour Aloysia Weber.
Voilà, tout ce que vous chantez là, Aloysia l'a chanté.
Tout à fait, voilà. Ouais. Et c'était un très très beau concert, et puis c'était une nouvelle collaboration avec Leonardo Garcia Larcón, que j'affectionne beaucoup, qui est un chef absolument formidable. Et puis Mozart, oui, il y a un pouvoir dans cette musique qui dépasse...
Qui dépasse tout.
Qui dépasse tout,
ouais. Et on vous retrouve là tout de suite dans un air de Lucio Silla.
Thank you.
Lucio de Mozart, chanté par Jody De Vos avec le Millennium Orchestra, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Et au cas où vous imagineriez qu'il suffit d'ouvrir la bouche, Jody De Vos m'a précisé que c'est très difficile.
Oh, oui.
C'est toutes ces vocalises voilà, qui avec
et
vous.
Et puis des phrases où on a besoin de trois poumons pour.
Ah oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, c'est...
Mais voilà, mais c'est ça, c'est Mozart, puis c'est l'art en général, ouais, ouais. C'est donner l'impression que c'est facile finalement.
Tout à fait, ouais, c'est notre mission en tant que chanteur, oui.
Voilà. En tout cas, il se passe quelque chose d'étonnant, Jody De Vos, parce qu'on aurait pu penser longtemps que la France était quand même plutôt le pays des barytons, mais que les ténors et surtout les sopranos, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis tout d'un coup, là, il y a une floraison
ouais,
de jeunes sopranos coloratours ou presque, ou pas, enfin de sopranos, avec Julie Fuchs, avec Sabine Devielle, avec vous-même, etc. C'est quelque chose d'étonnant.
Mais on était toutes les trois à l'Opéra Bastille, sur ces Indes galantes, qui se sont finis le 15 octobre. Et c'est vrai qu'on remarque qu'on n'était que des jeunes chanteurs français, avec Stanislas de Barbérac, avec Mathias Vidal et Edwin Crosley-Mercer, Alexandre Duhamel, Florian Sempé. J'ai fait une flûte enchantée avec Vanina Santoni, Julien Bert, à nouveau Florian et Mathias. Ouais. Donc voilà, il y a un renouveau, je pense, dans le chant français. Bon, je suis la petite Belge qui débarque, mais
oui,
j'étais très bien accueillie par mes collègues français. Et la France est peut-être un peu mon pays d'adoption aussi. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de jeunes chanteurs qui veut vraiment porter haut le répertoire de l'opéra, qui veut montrer que si on a été happé par cette musique, c'est qu'il y a une vraie raison et on a envie d'emmener le plus de monde avec nous.
Et même de faire découvrir et aimer l'opéra des jeunes gens qui, comme vous, quand vous étiez dans votre enfance en Belgique, n'aviez aucune idée de ce que c'était.
Oui, je pense notamment à Julie Fuchs, qui est hyper active sur les réseaux sociaux, qui a développé un concept qui s'appelle Opera is Open, et elle invite des gens qui n'ont jamais été à l'opéra. Donc le principe, c'est vraiment, vous invitez quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît et qui veut faire découvrir à quelqu'un qui n'a jamais été. Ouais. Je trouve ça génial de pouvoir permettre... de faire ça et puis les captations au cinéma, les streamings permettent aussi de montrer que c'est absolument pas un art vieillot et révolu à rester dans les vieux vinyles de nos grands-parents.
Et alors, et entre vous, parce que moi je me rappelle Michel Sénéchal ici même qui m'expliquait que en gros à l'Opéra Comique, quand Mado Robin entrait en scène, Jeanine Michaud avant essayait de la déstabiliser pour que elle se plante dans son air tellement elle était en concurrence. Alors c'est comme ça entre Sabine Devielle, Julie Fuchs et vous?
Non. Désolée de vous décevoir, il n'y aura pas de ragot ici, parce que justement, c'est un bonheur absolu de pouvoir être face à des artistes tels que Sabine et Julie et de n'avoir que des encouragements et que de la bienveillance de la part de chacune.
Ah oui.
Sabine m'a d'ailleurs invitée sur son disque. J'ai une admiration pour elle. J'avais une admiration bien avant de la connaître en personne quand elle a eu la victoire de la musique en 2013, il me semble. Et moi, j'étais encore aux études. Je la découvrais. J'étais absolument fascinée par cette chanteuse.
Surtout pour le coup, vous pouvez chanter pas mal les mêmes rôles.
On a pas mal de rôles en commun. D'ailleurs, je remercie Sabine quand elle est absente, c'est moi qu'on appelle. Et je ne ressens aucune compétition entre nous. Et il y a beaucoup de bienveillance et on se soutient, attendre, écoutez, on se soutient vraiment les unes les autres.
Et justement, on va vous écouter ensemble dans Thaïs. Massenet, d'ailleurs, au passage, donc c'est aussi dans vos cartons.
Alors Massenet, ça sera d'abord la fée de Cendrillon cette saison à l'Opéra de Limoges en mars, si je ne m'abuse. Et puis Massenet, c'est un peu le rêve absolu. Le but, c'est Manon. Il faut le dire quand même. Le but, c'est Manon.
Le but, c'est Manon. En attendant, vous chantez Thaïs en trio avec Marianne Crébassa et Sabine Devielle. Et c'était l'Orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier
Roth. Du grand luxe.
Du grand luxe, oui, c'est beau, hein, ça plane. Ouais. Ça plane pour nous quand on écoute ça. Jody DeVos, on est très, très heureux d'avoir passé ce moment avec vous et avec voilà, votre goût pour ces musiques que moi j'essaie aussi de défendre dans cette émission, que vous portez parmi d'autres, mais que vous portez avec beaucoup de volonté. Je précise quand même que voilà, rien qu'au cours de la prochaine saison, on va parler tout de suite des dialogues des Carmélites, mais vous allez également reprendre votre récital Offenbach Colorature. Ouais. Vous allez reprendre les contes d'Hoffmann à l'Opéra Bastille. Et puis, il y aura aussi Cendrillon de Massenet. Il y aura Ariane Anaxos, mais il y aura aussi L'Acmé ouais. À l'Opéra de Liège. Et alors, une œuvre encore beaucoup plus oubliée, le Psyché d'Ambroise Thomas, qui va être donné au Théâtre des Champs-Élysées au mois de juin. Voilà, une sacrée saison.
Hein. Oui, une saison bien, bien lourde.
Et avec des rôles à apprendre aussi.
Avec cette prise de rôle. Il n'y a que L'Acmé qui est dans mes papiers pour le moment. Donc oui, c'est une très belle saison et je suis très contente d'avoir ce répertoire français qui finalement devient un peu ma spécialité et c'est un bonheur de pouvoir se spécialiser autant dans...
Et là, ça continue alors dès la fin du mois de novembre, donc avec les dialogues des Carmélites à Toulouse, dans une mise en scène d'Olivier Py, et dans le rôle de Constance, qui avait été créée par la charmante Liliane Berton. Je ne sais pas si sinon vous dit quelque chose.
Ouais, si, bien sûr, ça fait partie évidemment de ces chanteuses françaises qui ont porté le répertoire de l'opéra comique. Donc elles sont dans ces vieux enregistrements que j'écoute.
Et évidemment, les dialogues des Carmélites, c'est une œuvre magnifique, on le sait, mais Poulenc, c'est évidemment aussi le monde de la mélodie. Ça a une part dans votre vie très, très occupée de chanteuse d'opéra
Poulenc
aujourd'hui.
Poulenc a une très grande place dans mon répertoire et dans mon cœur déjà. Alors, les dialogues des Carmélites, c'est le premier opéra que j'ai joué en entier.
Ah oui.
Donc j'étais au conservatoire à Namur, à l'IMEP, et à l'époque, il fallait quelqu'un pour chanter le rôle de Madame Lidoine, donc c'est moi qui m'y suis collée. Madame Lidoine, que je ne chanterai à mon avis plus jamais, parce que c'est quand même un grand lyrique. Mais voilà, ça a été le premier opéra que j'ai joué dans son entièreté, que j'ai découvert. C'était avec Daniel Tonnard, déjà, qui m'accompagnait dans Kling.
Comme au concours de la Reine Elisabeth.
Comme au concours, c'était lui qui nous accompagnait tout du long, et c'était ma première expérience à l'opéra, vraiment. Et donc 10 ans après, voilà, je chante le rôle qui me convient enfin, donc Sœur Constance.
Mais j'insiste, les mélodies.
Et les mélodies, oui, bien sûr, les mélodies. J'ai chanté énormément de mélodies de Louise de Villemorin.
Oui.
Donc, Les fiançailles pour rire.
Mais vous êtes arrivé à garder une petite place pour le récital?
Alors, le récital, j'essaye vraiment d'en faire au moins une fois par saison. C'est vrai que j'en ai fait énormément après le concours Reine-Elisabeth, en fait.
Ouais,
la saison qui a suivi le concours Reine-Elisabeth, j'avais pas d'engagement à l'opéra. J'ai dû faire une 60aine de récitals. Et Poulenc s'y trouve à chaque fois.
Et puis alors, entre le récital et l'opéra, eh bien, vous serez le 6 décembre dans les rendez-vous de midi de l'opéra comique, donc juste un piano, c'est pour ça que je dis que c'est proche du récital, mais ce sera un programme d'air d'opéra comique choisi par vous.
Je suis dans mes grandes recherches de répertoire oublié, Alexandre Gradvicki m'a donné ce goût-là. Et donc, ça sera un récital avec Marine Toro, la salle au piano, et on va essayer de vous faire découvrir... beaucoup de choses peu connues, je pense, que ça soit du Meyerbeer, du Halévy, du Adam, du Aubert.
Ah bah alors, nos auditeurs vont se précipiter.
Je vous laisserai quand même un petit air de Donizetti pour habituer votre oreille à ce que vous connaissez, mais j'espère vraiment vous faire découvrir des choses qui me tiennent à cœur.
Ouais. Ce sera le 6 décembre à l'Opéra Comique. Merci, on y sera tous, d'avoir été avec nous jeudi de Vos. On va se quitter avec Offenbach comme on a commencé, avec un air de Boule de Neige qui est une œuvre géniale. Hein. En un mot,
c'est la musique de Barkouf, un grand opéra comique qu'il a écrit et qui a eu un flop malheureusement, qui n'a pas du tout fonctionné. Donc il a réutilisé sa musique et on a fait une opérette absolument délirante avec un ours qui devient empereur. Et je chante le rôle d'Olga, la dompteuse.
Voilà, Boule de Neige d'Offenbach, toujours avec Laurent Campellone et l'Orchestre de la Radio Bavaroise. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Julie DeVos, et j'espère à très bientôt.
À bientôt. Sois bien mignon. Serai
Boule de neige d'Offenbach par l'orchestre de la radio bavaroise sous la direction de Laurent Campellone, avec bien sûr la voix de Jody DeVos qui était ce matin mon invité et dont vous retrouvez toute l'actualité sur francemusique.fr.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et ben je suis vraiment heureux de vous retrouver et doublement heureux parce
que
vous allez nous parler d'un musicien que j'adore et que j'adorais avant même de connaître son nom. C'est vous qui me l'avez appris. Il s'appelle Norman Maine.
Et ben Norman Maine fut l'un des rares musiciens français, Benoît, dont les musiques ont été jouées par de très grands chefs d'orchestre américains comme Nelson Riddle ou Don Costa, tous deux accompagnateurs de Frank Sinatra. Mais Norman Maine fut, vous le savez bien, cher Benoît, un vrai spécialiste des musiques typiques, du tcha-tcha-tcha en particulier, et beaucoup connaissent sa chanson Allô Brigitte, Babylone 21-29, que vous avez passée antérieurement dans votre émission il y a quelque temps. Donc, chanson écrite avec George Lieferman. Alors, d'où vient le titre de cette chanson? Eh bien, c'est leur directeur artistique qui avait suggéré l'histoire d'une fille prénommée Brigitte. Et Brigitte avait donné son numéro de téléphone à plusieurs garçons. Et quant à Babylone 21-29, c'était tout simplement le numéro du label Fontana Philips. Et de ce fait, d'ailleurs, des événements imprévus survinrent à la sortie du disque. On en parle après l'écoute de Babylone 21-29, version Henri Salvador, avec Jean-Yann au bout du fil qui répond invariablement « Il n'y a pas de Brigitte ici ».
Babylone 21-29, voulez-vous me passer Brigitte?
Ah, c'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Babylone 21-29, je voudrais parler à Brigitte.
Ah, c'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Hola, quería hablar con la señorita Brigitta.
Nada, Brigitta, ici, señor.
Dites, c'est Rodolphe, je voudrais seulement parler à Brigitte.
Mais y a pas plus de Brigitte que de...
C'est
ça au plaisir. Hein.
Brigitte, elle est, je voudrais lui dire un mot.
Eh ben, vous savez ce que je vous dis, à vous, je vous dis.
Ici c'est Brigitte, y a pas de message pour moi.
Voilà, c'était en pleine bardomania, il faut dire, que cette chanson a vu le jour en 1960 avec la vraie Brigitte. Qui est la Brigitte?
Alors la Brigitte, eh bien, c'est la voix de la première femme de Jean-Yann qu'on entend tout au long de la chanson. Voilà. Alors, il y a une anecdote à propos de cette sortie du disque Allô Brigitte Babylone 21-29. C'était donc en 60, vous venez de le dire, en 1960. Et les choses se sont compliquées car des conscrits ayant entendu la chanson dès le matin sur divers postes de radio à l'époque, eh bien, les jeunes militaires téléphonèrent à Babylone 21-29, imaginant qu'ils auraient Brigitte au bout du fil, alors que c'était en fait le numéro du label Philips Montana. Du coup, le central téléphonique Ségur Babylone dans le 6e arrondissement de Paris fut complètement saturé car de Babylone 21-29, ça appelait à Babylone 21-30, 21-31. Imaginez la surprise, la colère des habitants du quartier. Il paraît que ce fut épouvantable.
Mais dites-moi, Serge Elahi, que Norman Maine, ça ne fait pas très français comme nom.
Non, pas vraiment, pas vraiment. Hein, en fait, le vrai patronyme de Norman Maine, c'est André Cazenave.
Ah,
et il
voilà.
nous explique ce bordelais, donc comment il devient Norman Maine à la Libération.
Lorsque je me suis présenté avec des amis pour assurer le thé dansant dans un établissement de Bordeaux, le propriétaire m'a dit « Comment on fait les affiches? On met quel nom ?» Alors je me suis dit « André Cazenave, il me dit « Vous savez, c'est bordelais ça. Hein. » Puis on est à la Libération, pour trouver un nom américain. Et je me suis souvenu avoir vu un film américain qui s'appelait « A Star is Born » dont le personnage principal s'appelait Norman Maine. Alors je lui ai dit comme ça dans la foulée « Norman Maine. » Oh, il me dit « C'est extraordinaire, ça c'est... » Alors voilà, à partir de ce jour-là, je me suis appelé Norman Maine.
Et alors, s'appeler Norman Maine n'a finalement pas été de tout repos tout le temps.
Non, parce que l'acteur qui faisait Norman Maine dans le film était un garçon qui buvait et qui allait de bar en bar et qui passait sa vie à être complètement en dehors du coup, puisqu'il était tout le temps, pas entre deux eaux, mais entre trois ou quatre eaux, n'est-ce pas? Et alors, quand je me présentais, moi, beaucoup plus tard, lorsque j'ai eu un nom qui a été un peu connu, j'arrivais dans des bars avec des amis, tout ça, on me disait... Ah, Norman Maine, alors c'est l'eau pétillante, hein, mais pas l'alcool. Voilà. Alors j'ai traîné ça, surtout à partir du moment où j'ai débarqué à Monte Carlo où je travaillais pour des Américains. Alors là, ça a été le pire.
C'est si bon, bon.
Vous savez, Serge et Laïc, ce morceau, c'est une vraie madeleine pour moi.
Je sais, je sais.
On était dans un village de vacances avec ma famille, j'avais 14-15 ans, j'étais tombé sur ce disque 33 tours de musique de Dansine. Il y avait cette version de C'est si bon. Ça a été, je crois, la première fois que j'entendais un tcha-tcha-tcha. J'adorais ça, j'écoutais pendant tout l'été. Et j'ai découvert plus tard, comme je le recherchais grâce à vous, Serge, que c'était un morceau de Norman Maine dont on parle ce matin.
Et alors, cette version de tcha-tcha de C'est si bon a sûrement surpris François et Olivier, les fils et petits-fils de Henri Betty, le compositeur de la musique de cette chanson célébrissime. Alors, dans ce style typique, eh bien, Norman Maine accompagna très souvent Dario Moreno, et c'est en 1961 que Norman retrouve encore le grand succès avec Guitare Tango, un air qui fera le tour du monde, et c'est le réputé chef d'orchestre que nous adorons, vous et moi, et beaucoup d'autres, Jean-Michel Defaille, qui va l'interpréter le premier. Norman Maine explique comment il a créé Guitare Tango avec son complice, Georges Lieferman.
Georges venait travailler souvent l'après-midi à la maison, et alors je jouais au piano, il me disait, tiens, t'as une idée comme ça, oui, tout ça. Et alors j'ai fait... Ah, il me dit, c'est marrant ça, c'est... on pourrait mettre derrière un petit truc de guitare, tu sais, recommence. Alors j'ai fait... Il m'a fait, ah, tiens, je dis, c'est vrai, et on a développé ça. Et on a écrit un piano depuis A jusqu'à Z, avec toutes les interventions de guitare, le fameux parce que c'était une époque où on cherchait ce qu'on appelait un gimmick. Le gimmick était fait pour attirer l'oreille de l'auditeur pour qu'il dise tiens, c'est tel endroit, c'est tel truc, c'est tel machin, c'est telle chanson.
Guitare Tango par l'orchestre de Jean-Michel Defaille avec à la guitare donc
Barthélémy Rousseau.
C'était en 1961, donc toujours une composition de Norman Maine.
Et de Georges Lieferman.
Et Georges Lieferman qui nous a quittés d'ailleurs l'an dernier. Oui.
Alors, suite de ce grand succès sur le plan français de Guitare Tango, eh bien, en 1961, le groupe des guitaristes Les Shadows était à l'Olympia. Et après ce concert, eh bien, Norman Maine et Georges Lieferman s'étaient rendus dans les coulisses pour leur offrir le disque de Jean-Michel Defaille, avec Guitare Tango, bien sûr. Et quelle ne fut pas leur immense surprise à Norman Maine et Georges Lieferman quand en 1962, eh bien, les Shadows enregistrèrent Guitare Tango, disque vendu, écoutez bien, Benoît, à 500 000 exemplaires la première semaine. Alors, avant d'écouter une version live de Guitare Tango par les Shadows à l'Olympia en 1975, là, je voulais rappeler que Norman Maine dirigea son orchestre jusqu'au bout. Il était d'une vitalité, d'une hyperactivité incroyable, mais malheureusement, il a été emporté par une implacable maladie en 2009. Il avait 88 ans. Voilà.
Eh bien, merci Serge de nous avoir proposé ce portrait du grand musicien qui était Norman Mailer.
Voilà, merci Benoît et à très bientôt.
Shadows dans Guitar Tango, une musique de Norman Maine dont nous parlaient ce matin Serge et Laïc. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Alain Joubert, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, nous parlerons de musique et de cinéma en compagnie de Costa Gavras. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon week-end sur France Musique, où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.